enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et avec une minute de retard, je m'en excuse, Thierry Garcin. Les enjeux internationaux, donc.
Voilà, on va parler des États-Unis dans un instant. Après 33 ans d'enjeux internationaux, je tiens à remercier les producteurs qui ont partagé ce projet dès l'origine, Dominique Rousset et Eric Laurent, projet voulu par ce grand directeur de France Culture qui était Yves Jégu, tous les chargés de production, d'abord indispensables et remarquables, mais surtout si humains, tous les réalisateurs si inventifs et amicaux qui ont construit ces enjeux et ces nombreux reportages à l'étranger, peut-être plus d'une centaine, complémentaire du direct quotidien, tant de souvenirs, malheureusement souvent cruels, la guerre civile du Liban, la Turquie de la junte militaire, la première intifada dans les territoires occupés, la guerre Irak-Iran, etc. Tous les techniciens en studio et à l'extérieur à la bonne humeur inébranlable et roborative, plaisir constant et affectueux de partager ces moments précieux avec eux au petit matin, où l'on voit d'ailleurs que la radio de service public, c'est surtout un travail collectif. On doit plus que tout remercier tous les invités, il ne faut jamais oublier que France Culture, c'est une magnifique table d'hôtes unique en son genre dans le paysage radiophonique mondial. Ce sont eux qui ont assuré par leur présence en direct, par téléphone ou en studio, à une heure peu chrétienne, la mise en perspective de l'actualité internationale. Vraiment merci à eux, ils ont honoré le service public. Mais j'ai un plaisir tout particulier à remercier tous nos amis auditeurs qui ont été l'unique raison d'être, au bout du compte, calcul très approximatif, de ces quelques 8400 émissions. Bref, il y a toujours une histoire de France Culture à raconter.
Eh bien, merci à vous, en tout cas.
Alors, la transition avec Donald
Trump,
voilà,
c'est ça.
C'est pas facile, je vous la laisse.
Ah non, alors ça, c'est votre dernier défi, Thierry Garcin.
Je ne m'y risquerai pas. États-Unis, bilan très provisoire de 5 mois de présidence Trump avec notre invité Vincent Michelot, professeur à l'IEP de Lyon. Alors, la nouvelle présidence Trump, évidemment, on le sait, est plus qu'atypique. Elle désarçonne, d'autant plus que souvent, les grands dossiers de politique étrangère ne semblent pas traités d'une façon professionnelle. Il y a la personnalité, les équipes, l'entourage, les méthodes. Bref, les premières lignes directrices sont très difficiles à percevoir et la cohérence de l'ensemble est peu évidente. Et à ce stade, faut-il d'ailleurs lier politique intérieure et politique étrangère ? La réponse de Vincent Michelot, professeur à l'IEP de Lyon.
Je crois qu'il ne s'agit pas simplement de la présidence Trump. En général, et quels que soient les présidents depuis finalement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est très difficile de séparer le domaine intérieur et le domaine extérieur. Les présidents jouent sur l'un des deux domaines pour se refaire dans l'autre domaine. Les présidents insistent sur certains de leurs pouvoirs plus importants, par exemple dans le domaine de la conduite de la guerre, pour compenser des faiblesses en matière intérieure. Et puis, il s'agit d'une forme de leadership, et ce leadership, on ne peut pas véritablement le distinguer en fonction de ce à quoi il conduit en matière intérieure et en matière extérieure.
Alors, si on prend pour nous, évidemment, c'est un terrain à privilégier, la politique étrangère, comment la caractériser ? Et il faut dire quand même encore une fois une chose, c'est que la personnalité même du président joue beaucoup dans l'évaluation qu'on a de son action.
Oui, il n'y a pas de doctrine Trump, ça c'est une certitude, mais pour autant, la doctrine Obama a mis beaucoup de temps à se caractériser, à s'affirmer. Mais là, on est surtout face à une série de contradictions, une forme de réconciliation impossible entre des annonces de campagne fanfaronnesques et puis la conduite de la politique étrangère de la première puissance mondiale face à des partenaires, des rivaux ou des ennemis qui n'ont pas véritablement bougé dans leurs ambitions. Et ce dont on se rend compte, c'est que il y a d'énormes dissensions à l'intérieur même de l'équipe Trump entre un premier entourage à la Maison Blanche avec notamment son conseiller Bannon et d'autre part l'appareil du ministère des Affaires étrangères et enfin un certain nombre de conseillers dans un deuxième cercle qui disent des choses différentes. Et puis il y a aussi de fortes dissensions avec le Congrès, en particulier avec le Sénat, et on a vu dans les dernières semaines un Sénat qui en quelque sorte a repris les rênes de la politique étrangère des États-Unis, c'est a contredit le président notamment sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, mais aussi a rassuré les partenaires européens qui étaient très traumatisés par l'absence d'affirmation de l'article 5 du traité de l'OTAN par le président Trump lors de sa visite en Europe. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement difficile à conceptualiser, à comprendre, qui est une administration qui fait feu de tout bois dans des directions qui sont très contradictoires et où on ne voit pas véritablement où le centre de pouvoir se trouve.
Voilà, alors effectivement, on a parlé de la personnalité Vincent Michelot. Je rappelle que vous êtes historien et également donc professeur à l'IEP de Lyon. On a parlé de son comportement, d'une certaine façon un peu matamore, et on dirait aussi à l'inverse Tartarin de Tarascon. Et en même temps, on a le non-spécialiste a l'impression qu'il en rabat souvent. Alors, je prends le cas de la Corée du Nord, je prends le cas du projet d'ambassade américaine à Jérusalem, je prends le cas du Brexit, de Cuba, de la relation avec la Russie, avec la Chine, etc., qu'au fond, il manifeste une certaine forme de réalisme. Est-ce que cette observation, vous la partagez ?
Oui, d'une certaine manière, mais il faut voir que constamment, Donald Trump s'adresse à deux publics. Son public prioritaire, c'est sa base électorale. C'est ce socle d'électeurs indéfectibles qui, quoi qu'il fasse, lui resteront fidèles et continueront à lui apporter son soutien dans ses propositions parfois les plus dures, les plus humiliantes ou les plus vexatoires. Et puis d'un autre côté, il y a un président qui est entouré d'hommes, notamment dans son équipe de sécurité nationale et de défense, qui ont une pratique longue de la chose militaire ou de la chose diplomatique, et qui protège Donald Trump de ses propres tentations les plus sinistres. Et bien évidemment, on est dans cet effet d'annonce systématique, mais là on retrouve en quelque sorte l'homme d'affaires qui a écrit l'art du deal et qui commence toujours par une proposition au maximum et qui est une proposition dans l'emphase. Et puis après, on négocie pour arriver à trouver une forme de compromis un petit peu plus réaliste. Mais pour autant, on ne peut pas ne pas noter combien toute la rhétorique de Donald Trump est tournée vers ce socle électoral et qui tient bien peu compte de la réalité des choses. Ce qui lui importe, c'est déjà les élections de 2018, celles de 2020, et très peu une forme de bon fonctionnement diplomatique, qu'il s'agisse d'économie ou de défense.
Et justement, Vincent Michelot, vous abordez la question du Congrès. Est-ce que sa marge de manœuvre ne sera pas quand même peut-être réduite à partir des élections mi-mandat de novembre 2018? Il s'appuie sur une double majorité, mais ses propres troupes vont peut-être lui faire comprendre qu'elles vont perdre des sièges éventuellement et qu'il aura à être un peu plus rationnel.
Je crois qu'il y a surtout de la part des républicains en Congrès cette tentation de mettre Donald Trump sous tutelle ou de l'écarter le plus possible du centre du pouvoir, avec deux menaces très directes. La première concerne le vote éventuel par un certain nombre d'élus républicains dans un premier temps à la Chambre, puis dans un deuxième temps au Sénat, d'un éventuel impeachment, d'une tentative de destitution autour de l'affaire de la Russie. Et puis, il y a d'autre part le réalisme électoral qui fait que au jour d'aujourd'hui, les républicains qui, à la fin de cette session parlementaire, vont retourner dans leur district ou dans leur État pour les sénateurs, vont avoir bien peu de choses à montrer à leurs électeurs qui risquent de leur demander « qu'avez-vous fait du mandat que nous vous avons donné ?» Et de ce fait, le président Trump représente en quelque sorte un obstacle pour les élus républicains au Congrès à la réalisation d'objectifs comme des baisses d'impôts, comme l'abolition et le remplacement de la loi sur la santé, le fameux Obamacare, et puis un certain nombre d'autres objectifs du Parti républicain pour lesquels aujourd'hui, d'une certaine manière, le président Trump représente plus un obstacle qu'un chef d'orchestre, comme il devrait l'être dans sa fonction présidentielle.
Voilà, Vincent Michelot, professeur à l'IEP de Lyon, et bien sûr, excellent été à tous, et notamment à vous, Émilie.
Et merci, bel été aussi à vous, Thierry Garçon. Je rappelle qu'on peut podcaster tous vos enjeux internationaux depuis je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs, puisque c'est illimité.
C'est une bonne question.
C'est une bonne question.
Ce n'est pas charitable de
la poser. On aura tout l'été
pour
remonter le fil de la page des enjeux internationaux sur franceculture.fr.
Merci.